soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord le premier grand journal de la soirée. Ce que vous devez retenir de l'actualité de ce lundi 21 février avec Sébastien Nogeny. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir avec un conseil de sécurité télévisé.
Vladimir Poutine entouré de tous ses responsables militaires au Kremlin, sous l'œil des caméras. Le président russe qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans le dossier ukrainien. Il étudie en effet la possibilité de reconnaître l'indépendance des séparatistes pro-russes à l'est de l'Ukraine. Nous serons à Moscou avec notre correspondant. La France, pour sa part, essaye de réunir Joe Biden et Vladimir Poutine pour un sommet pas encore gagné. Emmanuel Macron, dans les habits du diplomate depuis deux semaines, analyse du service politique à suivre. À suivre également le Crédit Suisse, deuxième banque helvétique au cœur de la tourmente pour avoir caché des fonds douteux pendant des décennies. Le gouvernement qui lance un plan pour réduire les risques de chute chez les personnes âgées et pour finir des visages radieux à la récré, fin du masque en extérieur dans la zone B. Reportage en fin de journal.
À 18h15, un jour dans le monde, forcément ce soir entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi pour essayer de comprendre comment interpréter ce mélange bruit de guerre et bruit diplomatique. Ça n'est pas toujours simple, nous ferons cet exercice avec Sylvie Kaufmann du Monde. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne à la veille du grand rendez-vous de France Inter. Demain, au studio 104, des candidats et des jeunes, 8 candidats qui ont 45 minutes pour convaincre les 15-25 ans à la veille donc de cet événement. Ce soir, voici l'occasion, vous qui votez pour la première fois, d'affûter vos arguments, nous dire ce que vous attendez d'eux, pourquoi vous n'arrivez pas à vous identifier à un candidat, pourquoi au contraire vous avez trouvé le vôtre et vous vous y accrochez. Tout cela au 01 45 24 7000.
France Inter.
Vladimir Poutine s'invite donc à nouveau à la télévision russe.
Oui, une nouvelle mise en scène au Kremlin cet après-midi, alors que la situation est de plus en plus volatile sur le terrain en Ukraine. Le président russe a donc décidé de réunir un conseil de sécurité exceptionnel devant les caméras, entouré des chefs du renseignement, de tous les hauts responsables militaires et politiques. À l'agenda de cette réunion, l'avenir des deux républiques séparatistes pro-russes dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, la République de Donetsk et de Louhansk. C'est là où la tension militaire est la plus forte en ce moment. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Sébastien.
Correspondant de France Inter à Moscou, Vladimir Poutine qui réfléchit à reconnaître leur indépendance à ces républiques pro-russes, ce qui changerait profondément la situation sur le terrain.
Ce ne serait pas une déclaration de guerre, mais presque, hein, tout de même. Et pour amener cette décision extrêmement lourde de conséquences, c'est une nouvelle fois, vous l'avez dit, une mise en scène chorégraphiée, millimétrée, qu'a choisi le pouvoir russe, avec comme théâtre le Kremlin, un à un. Tous les membres du Conseil de sécurité de la Russie, qui sont les poids lourds du pouvoir russe, les principaux ministres, les présidents des assemblées, les patrons de l'armée, des services secrets, tous sont venus dire que, selon eux, la Russie devrait reconnaître dès maintenant les républiques séparatistes du Donbass, à l'image du ministre de la Défense, Sergueï Shoigu.
Personne ne va mettre en œuvre les accords de Minsk et tout le monde se prépare à résoudre cette question par la force. Dans cette situation, je pense que nous n'avons pas le choix. Donc je le dis sans ambiguïté, oui, nous devons les reconnaître.
À l'issue de cette belle unanimité, Vladimir Poutine a donc annoncé que la décision serait prise aujourd'hui. On imagine honnêtement difficilement qu'elle aille dans un autre sens que celui de la reconnaissance des séparatistes, une décision qui torpillerait de facto tout espoir de règlement diplomatique dans l'est de l'Ukraine. Il est à craindre aussi que cela ne provoque une recrudescence des combats, puisque les accords de cessez-le-feu, déjà peu respectés, mais alors là deviendraient par essence totalement obsolètes. Est-ce que cela donnera, dans une sorte de scénario à la géorgienne, à la Russie, le prétexte pour une intervention militaire? Est-ce que cela déclenchera immédiatement des sanctions côté occidental? Nous entrons probablement ce soir dans une période de grande incertitude.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Moscou qui accuse sur le terrain les forces ukrainiennes de tenter de s'infiltrer en Russie dans la région de Rostov à 1000 km au sud de la capitale russe. Moscou qui dit avoir tué 5 saboteurs ukrainiens selon les médias proches du Kremlin. Démenti formel des autorités ukrainiennes qui mettent en garde depuis des jours contre les fausses informations colportées par l'armée russe. La bourse de Moscou de son côté a dévissé de 13%. 5% à la clôture. Sur le plan diplomatique, difficile ce soir de savoir si les portes restent encore ouvertes ou pas. La nuit dernière, l'Elysée se faisait fort d'annoncer qu'un sommet pourrait bientôt avoir lieu entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Optimisme très vite tempéré ce matin par Moscou, qui dit que la tenue de ce sommet reste encore prématurée. Il n'empêche, deux réunions importantes auront lieu cette semaine. Une réunion entre les deux chefs de la diplomatie américaine et russe, Anthony Blinken et Sergueï Lavrov, ce sera jeudi. Et puis le lendemain, vendredi, c'est le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, qui doit s'entretenir à Paris avec son homologue russe, Lavrov. La France qui continue donc de croire en une issue pacifique et politique. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
À moins de deux mois de la présidentielle française, le futur candidat Emmanuel Macron se démultiplie sur le front diplomatique et ne se prive pas de le faire savoir.
Et quand il le faut, Sébastien, il assure lui-même le récit. C'était il y a deux semaines, dans la 330 présidentielle qui l'emmenait de Moscou à Kiev. Emmanuel Macron accorde 50 minutes à la dizaine de journalistes présents, rarissime. Pas de micro, pas de caméra, mais le président décrypte son action et alimente directement les comptes rendus qui en sont faits. Le reste du temps, ce sont ses plus proches conseillers qui sont en lien permanent avec la presse. Au début de la crise, l'Elysée a créé une boucle WhatsApp. Elle chauffe 24 heures sur 24, elle est pleine à craquer, plus de 250 journalistes. Le diplomate en chef du palais, Emmanuel Bonne, prend même le temps de débriefer quasiment chaque coup de fil présidentiel, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, lors d'audioconférences avec ces mêmes journalistes. Et puis, il y a les photos officielles de l'Elysée sur les dernières publiées hier sur les réseaux. On voit Emmanuel Macron soucieux, parasé, enchaîner les rendez-vous téléphoniques. Comprenez, il est à la tâche 7 jours sur 7, même le dimanche. La diplomatie, vous le savez, par définition, c'est le règne du secret, des petits pas, tout sauf spectaculaire. Le président, devenu interlocuteur privilégié de Poutine, a clairement décidé de faire de ses efforts réels un élément de communication.
Simon, le baron du service politique d'Inter. Ajoutons pour terminer qu'Air France a décidé d'annuler ses deux vols Paris-Kiev et Kiev-Paris prévus demain. La crise ukrainienne, on y revient juste après ce journal dans un jour dans le monde, Fabienne.
Absolument, quand la deuxième banque suisse cachait de l'argent sale.
Le Crédit Suisse, cette institution financière helvétique vieille de plus d'un siècle et demi, a en effet hébergé des fonds liés au crime et la corruption. Révélation d'un consortium d'une cinquantaine de médias, dont nos confrères du Monde. Les journalistes ont eu accès à des données, à des fuites de données inédites, des milliers de comptes bancaires, de dictateurs, d'espions, de chefs de guerre criminels. Au total, ce sont des dizaines de milliards d'euros d'origine illicite qui auraient transité au Crédit Suisse pendant des décennies. L'établissement rejette ce soir, Olivia Chandiou, fermement ces accusations.
Plusieurs anciens dirigeants du Crédit Suisse le reconnaissent. Il était courant de fermer les yeux, selon l'un d'entre eux. Interrogé par le consortium, sa direction générale lui avait même demandé de trouver un moyen d'accepter les clients problématique. Et la liste de ces grosses fortunes à l'origine douteuse ou illicite est longue. On peut citer des trafiquants de drogue bulgares, l'homme de confiance de Robert Mugabe, l'ancien dictateur du Zimbabwe ou encore un blanchisseur présumé de la Ndrangheta, la mafia calabraise. Les journalistes eux-mêmes ont voulu tester le pare-feu de la banque, se faisant passer pour de riches clients en quête de discrétion. Ils se sont vus proposer des prête-noms et des relevés de comptes anonymes. Et ce n'est pas la première fois qu'un scandale lié au Crédit Suisse éclate. De nombreuses affaires ont déjà entaché sa réputation depuis 20 ans. Évasion fiscale, blanchiment d'argent sale, création de sociétés offshore opaques. En 2014, pour s'épargner un procès aux États-Unis, l'établissement avait payé une amende record de près de 3 milliards de dollars au fisc américain.
Olivia Chandiou, le procès du père Hamel se poursuit aujourd'hui pour la deuxième semaine aux Assises spéciales de Paris. Le père Hamel assassiné en juillet 2016 en pleine messe à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les deux auteurs sont morts à l'époque sous les balles de la police. Les magistrats s'interrogent donc sur le niveau de connaissance qu'avaient les accusés dans le box de cet attentat. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
L'un d'eux, un homme de 25 ans, est soupçonné par les enquêteurs à la barre d'avoir joué un rôle important dans la propagande djihadiste.
Oui, Jean-Philippe Steven Jean-Louis avait, selon les enquêteurs, une forte notoriété dans ce qu'ils appellent la djihadosphère. Lunettes, crâne rasé, le jeune homme d'origine haïtienne écoute les témoins parler de cette chaîne qu'il est soupçonné d'avoir animée sur la messagerie Telegram. Une propagande intense, des images sanguinolentes, précise l'un des enquêteurs. L'accusé conteste être propriétaire du canal, mais pour les services antiterroristes, c'est bien sa ligne téléphonique qui est liée. C'est aussi sur les réseaux sociaux qu'il fait connaissance de l'un des assaillants, Abdelmalik Petitjean. Quelques jours avant l'attentat, le terroriste lui demande d'ouvrir une cagnotte en ligne. « J'ai un plan avec un frère », lui écrit le futur assaillant, « un frère déter », comprenez, déterminé. Mais l'accusé savait-il ce que signifiait ce plan ? Pour l'enquêteur, aucun doute. Déter, c'est une expression qui désigne un projet d'attaque. Pure interprétation, rétorque l'avocat de Jean-Philippe Steven Jean-Louis. Quelques heures après l'attentat, son client envoie un message à Abdelmalik Petitjean. « T'es là ?» Le lendemain, il supprime l'intégralité des conversations de son téléphone et est arrêté le jour même.
Ariane Gressel au Palais de Justice de Paris. Le Covid qui joue en revanche les perturbateurs au procès des attentats du 13 novembre. Alors que le procès vient d'être suspendu pour une semaine, deux accusés étaient contaminés. Il ne pourra pas reprendre comme prévu demain car deux autres accusés ont été à leur tour testés positifs. L'audience qui devait initialement s'étaler sur 9 mois accuse désormais 4 semaines de retard.
C'est la première cause de mort accidentelle, Sébastien, chez les plus de 65 ans.
Les chutes à domicile ou dans la rue pour les personnes âgées. Chaque année, elles font 10 000 morts parmi les personnes âgées. Le gouvernement lance un plan pour réduire ces risques de chute, une aide financière pour réunir toutes les aides déjà existantes pour adapter son logement. Ça s'appellera MaPrimeAdapt. Une campagne d'information grand public à destination des familles et puis des formations pour les aides à domicile, les facteurs ou les aidants afin de lutter par exemple contre la dénutrition. Alors qu'en pensent les spécialistes ? Réponse avec Bruno Vellas, il est gérontologue au CHU de Toulouse.
Il y a deux catégories de chuteurs qui sont différents. Il y a la personne âgée fragile qui le plus souvent va tomber dans son domicile. Et puis il y a les seniors actifs qui, eux, vont prendre des risques, vont sortir, vont courir dans un aéroport et peuvent tomber à ce moment-là. Donc c'est deux sortes de chutes différentes pour lesquelles il faudra des actions complémentaires. Par contre, une fois qu'une personne est déjà fragile, souvent âgée, de plus de 80 ans, c'est important d'une part de continuer à faire de l'exercice physique et d'aménager l'habitat pour empêcher un certain nombre de risques, notamment quand on se lève la nuit, il faut des petites lumières pour qu'on puisse voir le cheminement sans tomber. La chute est le plus souvent le témoin d'une fragilité. Donc l'idéal, ça va être de prévenir la fragilité. Il faut que maintenant, les seniors puissent connaître leurs capacités, leurs fonctions pour les maintenir. On a appris à suivre notre cholestérol, à surveiller notre tension artérielle. Il faut qu'on puisse suivre notre vue, notre audition, notre mobilité, pour continuer à faire ce qu'on a envie de faire.
Bruno Vellas, c'était avec Sandy Dauphin. Boris Johnson, lui, veut tourner la page du Covid-19. L'Angleterre va mettre fin ce jeudi à l'isolement obligatoire pour les malades. Le Premier ministre britannique avait déjà levé l'essentiel des restrictions en vigueur en Angleterre, comme le masque en intérieur et le pass sanitaire dans les discothèques.
Et puis, revoir enfin le visage de ses copains à la récré.
C'est la bonne nouvelle du jour, Fabienne. Pour les plus petits, les enfants peuvent désormais retirer leur masque en effet en extérieur à l'école et pour faire du sport en intérieur. Le masque reste obligatoire dans les salles de classe et les couloirs. Par ailleurs, les parents, eux, n'ont plus à fournir d'attestation sur l'honneur pour faire revenir leurs enfants à l'école. Alors comment cet allègement des restrictions sanitaires est-il vécu ? Amélie Bonté s'est rendue à la sortie d'école du Pôle Molière au Havre.
À la sortie de l'école, Mariem saute dans les bras de sa maman.
Non, on n'a pas porté le masque.
Et alors toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Super !
Un engouement partagé par Marjolaine, maman d'un garçon de 6 ans.
C'est mieux parce qu'en plus, moi, il est asthmatique, donc c'est un peu compliqué le masque toute la journée.
Et pourtant, son fils n'a pas osé retirer son masque aux récréations. Saina, elle, c'est plutôt par habitude qu'elle ne l'a pas enlevé.
Normalement, on ne devait pas, mais moi, je l'ai porté.
Pourquoi du coup ? Tu avais envie de le garder ?
Non, c'est juste que je suis habituée vu que dehors, faut le mettre.
Avec l'habitude, elle n'a pas trop osé l'enlever. Donc j'ai sa sœur qui est à côté, tu l'as enlevé toi ?
De quoi ?
Ton masque pendant la récré ?
Juste en dessous du nez.
Ils sont habitués, je pense qu'il va falloir encore un petit laps de temps et que les professeurs leur disent bien qu'elles ont le droit de le retirer maintenant. C'est vrai que là, ça s'allège, ça fait du bien à tout le monde. Pour Zoé, 8 ans, les récrés de ce jour de rentrée avaient une toute autre saveur.
Bah c'était bien parce qu'on voyait tout le monde sans le masque. On pouvait mieux se parler, on entendait mieux, on pouvait crier, on pouvait jouer à touche-touche, donc c'était bien.
Elle va vivre maintenant, c'est quand même plus sympa pour les enfants. Franchement,
est-ce que tu as hâte maintenant de l'enlever quand tu seras dans la classe ?
Oui.
Nous aussi, on aimerait bien Amélie Bonté, hein, quelle chance de France Bleu Normandie, rappelons que ça n'est valable que pour la zone B, Fabienne, déjà de retour de vacances d'hiver.
Et oui, nous voilà. Aussi on a hâte, moi je me souviens même plus à quoi vous ressemblez Sébastien, je vais vous dire. Allez,
moi non plus.
À tout de suite, dans Un jour dans le monde, vous nous raconterez notamment comment le maire de New York a décidé de vider le métro des SDF qui dorment. Ce soir nous essaierons de comprendre les signaux contraires qui viennent de Moscou et de Kiev et j'ai envie de nous souhaiter bon courage pour essayer de comprendre. Et puis au téléphone sonne, je vous le remets en tête, vous savez que demain, ici même, à France Inter, au studio 104, 8 candidats viennent parler, échanger avec des jeunes de 15 à 25 ans. C'est un peu la mise en bouche ce soir au téléphone sonne. Venez nous raconter, en attendant demain, pourquoi c'est compliqué pour vous de trouver un candidat qui vous parle, duquel vous semblez proche, quelles sont les préoccupations que vous attendriez de la part des candidats et que vous n'entendez pas. Voilà, le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. C'est donc tout à l'heure à 19h20. Un œil sur le ciel.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Élodie Calac, une journée, bonsoir d'abord, bonsoir à vous Élodie, pardon, une journée contrastée pour demain.
Oui, bonsoir à tous. Un temps faiblement perturbé en effet va gagner les régions du nord-ouest jusqu'aux frontières du nord avec beaucoup de nuages, quelques pluies, un petit peu plus nombreuses près de la Manche l'après-midi. Le vent soufflera encore sur les régions voisines de la Manche jusqu'à 80 km/h sur le littoral. Entre les Charentes, le Limousin, le Jura et l'Alsace, beaucoup de nuages également, quelques averses de neige sur le Jura le matin. Pareil sur le nord des Alpes, mais ça s'éclaircira l'après-midi. On aura toujours un fort risque d'avalanche sur le nord des Alpes. Entre l'Aquitaine, Rhône-Alpes et le sud-est sera agréable, ensoleillé, mais il faudra se débarrasser des nuages sur le sud-ouest bien présents le matin. Et puis il faudra également composer avec le vent en Méditerranée jusqu'à 80 km/h.
Avec des températures en baisse le matin.
Oui, ça restera doux malgré tout, souvent 2 à 7 degrés demain matin. Et puis l'après-midi, 11 degrés à Reims, à Strasbourg, 13 à Paris, Alençon, Nantes ou Lyon, 16 degrés du côté d'Agen et on ira jusqu'à 18 en Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.